qu'elle nous éclaire par l'éclat de ses vertus. Elle sera pour nous le double modèle, modèle d'esprit de pauvreté et celui de détachement. D'abord, l'esprit de pauvreté, avec sa double face, la pauvreté à laquelle sainte Élisabeth s'exerçait elle-même et la pauvreté qu'elle soulageait chez les autres, chez les pauvres. La considération de Jésus-Christ pauvre, souffrant et couvert d'opprobre, la touchait tellement qu'elle n'avait pas d'autre désir que de lui ressembler. Elle regardait le faste de sa dignité souveraine et tous les ornements qui l'accompagnaient avec mépris. Un jour de l'Assomption, elle entre dans une église et à la vue d'un grand crucifix, Élisabeth dépose sa couronne sur un banc et se prosterne le visage contre terre. Au reproche de s'être comportée comme une folle ou une vieille nonne, elle répond « Voici devant mes yeux mon Dieu et mon roi, qui est couronné d'épines aiguës. Et moi, qui ne suis qu'une vile créature, je resterai devant lui couronné de perles, d'or et de pierreries. Ma couronne serait une dérision de la sienne. » S'il arrivait que le mari d'Élisabeth fût obligé de la laisser, elle quittait aussitôt ses habits magnifiques et en prenait de simples jusqu'à son retour. Et quand ses habits de laine étaient usés, elle les raccommodait elle-même avec de mauvais morceaux d'étoffe, peu importe s'il était d'une autre couleur que le vêtement qu'elle raccommodait, retenant au moins l'esprit. Par exemple, dans une famille chrétienne, on ira toujours à l'essentiel. Et quant aux vêtements, tous les membres de la famille les garderont jusqu'à usure, indépendamment de la mode. Cherchant à imiter Jésus-Christ dans sa pauvreté, Élisabeth soulageait et soignait le même Jésus-Christ dans les pauvres et dans les malades. Un jour qu'elle descendait par un petit sentier très rude, portant dans son manteau du pain, de la viande, des œufs et autres aliments destinés aux pauvres, elle se trouva tout à coup en face de son mari. Étonnée de la voir ainsi ployant sous le poids de son fardeau, « Voyons ce que vous portez, » lui dit-il. En même temps, il ouvre le manteau qu'elle tenait serré contre sa poitrine. Mais il n'y avait plus que des roses blanches et rouges, ce qui le surprit, car ce n'était pas la saison des fleurs. Une autre fois, pendant l'absence du duc, Élisabeth prit un pauvre petit lépreux que tout le monde rebutait, le baigna elle-même et le déposa dans son propre lit. Le duc étant revenu et prévenu par sa mère, se dirigea aussitôt vers sa chambre. Irrité, le prince arracha vivement la couverture du lit. Mais au lieu du lépreux, il vit Jésus-Christ lui-même crucifié et étendu dans son lit. Modèle d'esprit de pauvreté, sainte Élisabeth est aussi celui de détachement. À l'appel du pape, les princes chrétiens, dont le duc Louis de Thuringe, époux d'Élisabeth, s'arment pour aller combattre les musulmans en Terre Sainte. En effet, le duc Louis ne reviendra plus dans sa famille. Il mourra en route. Élisabeth venait de donner le jour à son quatrième enfant quand on lui annonça la triste nouvelle. Une plus grande épreuve l'attendait encore. Son beau-frère, sans avoir égard à la douleur de la veuve, chassa du palais Élisabeth et ses enfants avec l'ordre de ne rien emporter avec eux. La fille des rois descendit alors à pied le sentier qui menait à la ville. Elle portait dans ses bras son plus jeune enfant. Les trois autres la suivaient, accrochés à sa jupe. Le froid était vigoureux. Élisabeth, au temps de sa grandeur, avait comblé des habitants d'Eisenach, de sa ville, de ses bienfaits. Aucun, cependant, par crainte du beau-frère de la duchesse, ne voulut la recevoir. Elle ne trouva d'asile que dans une étable à pourceaux. L'ingratitude ne se montra peut-être jamais plus grande que chez les habitants d'Eisenach. Il y avait là une vieille mendiante qui avait été longtemps objet des soins d'Élisabeth. Un jour que celle-ci passait un ruisseau bourbeux sur quelques pierres, elle y rencontra cette même vieille qui, la bousculant rudement, la fit tomber en criant « Tu n'as pas voulu vivre en duchesse pendant que tu l'étais. Te voilà pauvre et couché dans la boue. Ce n'est pas moi qui te ramasserai. » Élisabeth se leva en riant. « Voilà, dit-elle, pour l'or et les pierreries que je portais autrefois. » Voilà, chers fidèles, comment sainte Élisabeth vivait l'esprit de détachement. Mais qu'est-ce que ce détachement ? Pourquoi et de quoi faut-il nous détacher ? Et comment le faire ? Voyons-le rapidement. Qu'est-ce que le détachement ? On utilise communément ce terme pour signifier l'état de celui qui est détaché, qui est délivré d'un sentiment, d'une opinion, d'une passion. Notre Seigneur enseignait lui-même le détachement de tout. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix tous les jours et qu'il me suive. Et ailleurs, celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Enfin, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Pourquoi faut-il se détacher ? Nous venons de le voir. C'est pour pouvoir plus librement suivre notre Seigneur Jésus-Christ sur la voie de la sainteté, de la perfection chrétienne. Saint Thomas d'Aquin nous enseigne que la perfection que le bon Dieu exige de nous est la disposition par laquelle on renonce à tout ce qui empêche le cœur de se donner entièrement à Dieu. Et de quoi faut-il nous détacher ? Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce tout auquel on doit renoncer ? Premièrement, le détachement de tout de ce qui serait contre Dieu, comme péché mortel, péché véniel, délibéré. Ensuite, nous devons nous détacher des biens extérieurs, richesses et honneurs. Exemple de sainte Élisabeth est très clair là-dessus. Et saint Paul nous dit, « Il faut que ceux qui usent du monde soient comme n'en usant pas, car elles passent la figure de ce monde. » Il faut se détacher aussi des biens du corps, de la santé, par exemple, et nous tenons à la santé beaucoup plus que nous ne le pensons. De la santé et aussi de la beauté, de la beauté. Ne pas s'attacher même aux genoux, en voulant les bien mettre en évidence, surtout pour la messe. Mesdames, mesdemoiselles, tout cela, même vos genoux, passera comme une fleur qui se fane. Le détachement aussi de toute complaisance dans les vertus que nous pouvons avoir. Moi, je suis humble, par contre, mon voisin, pas trop. On doit estimer les vertus, non pas en tant qu'elles sont en nous comme un bien propre à nous, mais en tant qu'elles nous conduisent à Dieu. Nous pourrions encore longtemps énumérer d'autres détachements dont nous avons besoin pour devenir saints. Mais il ne faut pas oublier une attache très forte et très mince à la fois qu'on a souvent du mal à voir. C'est l'attachement à nous-mêmes, à notre volonté propre. C'est peu de chose pour l'homme de renoncer à ce qu'il a. Mais c'est une affaire bien plus ardue de renoncer à ce qu'il est. Se dépouiller de soi-même, de ses défauts, de ses mauvaises habitudes qui nous sont si étroitement unies depuis notre naissance qu'elles semblent comme passées dans notre sang, se vider de tout amour propre, c'est le travail de la vie parfaite. Et voici comment pratiquer ce détachement de notre moi. Que faire quand on nous fait une reproche, quand on nous dit quelques paroles rudes et méprisantes, ou bien lorsqu'on nous oublie, quand ceux dont nous attendons quelques témoignages de bienveillance nous négligent, nous abandonnent et réservent leur faveur aux autres? En connaissant bien notre nature, piquée dans son orgueil, elle bouillonne ou se décourage. Mais il faudrait alors faire trois choses. La première est de sacrifier à notre Seigneur les ressentiments qui viennent tantôt de colère, tantôt de honte de se voir méprisé ou trop peu considéré. On le sacrifie comment ? On le sacrifie par l'amour de Dieu ou par la considération des opprobres de Jésus crucifié. Ainsi, me voyant abandonné et méprisé, je me représente le mépris et l'abandonnement du Sauveur, surtout durant sa passion. La seconde chose qu'il faut faire, c'est de remettre tous nos intérêts et tous nos desseins entre les mains de notre Seigneur. C'est de s'abandonner à sa divine providence, de se confier à son infinie miséricorde et de renoncer à tout autre soin que de lui obéir et de lui plaire. La troisième chose est de s'appliquer à quelque exercice contraire au sentiment intérieur où l'on est alors et qui tourmente l'esprit. Si mon inclination me porte au plaisir et à la mollesse, je dois faire quelque pénitence. Si je sens quelques mouvements d'orgueil et de dépit de ce que l'on me néglige, je dois chercher l'occasion de pratiquer la douceur et l'humilité. Par exemple, en rendant quelques bons offices à la personne qui semble avoir du mépris pour moi. Voilà, chers fidèles, les trois moyens pour rompre l'attachement à nous-mêmes, pour se défaire de l'amour propre, pour aimer plus librement notre doux Sauveur, lui seul. Pour conclure, un des propos de Sainte Élisabeth de Hongrie. Voici que je considère comme de la boue les biens de ce monde que j'aimais autrefois. Je me réjouis des calomnies, des médisances et des mépris. Je n'aime rien que Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.